Scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et contemplons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Bah là, on joue là, c'est sérieux.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple, d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You find he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever a wiz there was.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les voies du scénarium. Cette nouvelle émission va être consacrée au jeu de rôle. Laissez-moi vous faire une petite présentation d'ensemble de la conception de cette émission. Dans sa première partie, d'une quinzaine de minutes environ, nous proposerons les actualités sur le sujet, des sorties, des financements participatifs, des interviews d'auteurs ou encore des retours historiques sur certains jeux emblématiques, mais également des sujets de fond sur la pratique du jeu de rôle. Puis, dans un second temps, vous pourrez suivre une partie de jeu de rôle mise en ambiance à la manière des feuilletons radiophoniques très populaires dans les années 50 et 60. Cette partie pourra, à la manière d'un feuilleton, être diffusée en plusieurs épisodes ou simplement en one-shot sur une émission selon les besoins, les envies et les personnes du moment. Les joueurs et le maître du jeu, que nous appellerons ici les voix, pourront être différentes au fil des émissions et parties afin de varier les plaisirs. Mais je vous devine à travers les ondes radiophoniques. Une question vous brûle les lèvres, chers auditeurs. Mais qu'est-ce donc un jeu de rôle ? Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer. Le jeu de rôle, ou en abréviation JDR ou RPG, hein, que vous avez certainement entendu sur les jeux vidéo, c'est un loisir de type jeu de société dont le but principal est de raconter, ou plutôt devrais-je dire vivre, des histoires. Le concept est plutôt simple et se rapproche de celui du théâtre. Les joueurs d'une partie incarnent chacun un personnage et doivent l'interpréter de la meilleure façon possible selon le contexte de jeu qui a été choisi et son envie. A contrario d'une pièce de théâtre, le cours de l'histoire n'est pas fixe et défini et peut fortement évoluer selon les actions des protagonistes. Afin de donner un cadre, des règles, un des joueurs endosse le rôle de maître de jeu, une sorte de conteur chargé de donner vie au reste de l'univers. Il ne joue pas un personnage précis, mais tous les personnages qui pourront interagir avec les autres joueurs. Les personnages non-joueurs. C'est également lui qui aura la charge de donner corps à l'univers grâce à des descriptions et autres principes de narration. Pour donner plus de réalisme et de cohérence sur les actions physiques, les personnages sont en règle générale décrits sur une feuille, qu'on nomme feuille de personnage, et sur cette feuille sont quantifiées leurs capacités de manière chiffrée. Cette particularité permet deux choses. Déjà, de comparer les valeurs entre les différents personnages. Un tel sera plus costaud que le second, et celui-ci, par exemple, sera plus rapide. Mais ces données permettent également de donner une dose d'aléatoire à certaines actions. Par exemple, cela peut permettre de quantifier un niveau de réussite. Pour réaliser ce test, il suffit simplement, en règle générale, de jeter un dé, ou plusieurs dés, ça dépend des jeux, et de comparer le résultat au score qui correspond à l'activité que l'on souhaitait réaliser. Par exemple, si Usain Bolt doit courir une grande distance, eh bien on fait un jet de dés sous sa rapidité et on voit sa réussite. Et c'est pas parce qu'Usain Bolt est extrêmement rapide qu'il l'est tous les jours. Il y a des jours où il sera moins rapide, des jours où il sera plus rapide, mais on va toujours comparer par rapport à son niveau de base. Ce jet de dés permet donc de connaître la forme du moment, si je puis m'exprimer ainsi. La grande force du jeu de rôle, c'est que l'on peut jouer n'importe où et n'importe quand. Je veux dire, autant chez soi qu'à son travail, le matin ou le soir, mais également dans n'importe quelle période historique. On peut par exemple jouer dans la Seconde Guerre mondiale ou dans un épisode de Buffy contre les vampires. Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait jouer dans un épisode de Star Trek ou sur les guerres napoléoniennes. Tout est possible, il n'y a qu'une seule limite, votre imagination. Et puis si je parlais de règles et de feuilles de personnages il y a un instant, il est également tout à fait possible de s'en passer pourvu que tous les joueurs soient d'accord. Prenez par exemple les petits enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs dans le jardin. Ou encore aux cow-boys et aux indiens, ça dépend de à quoi vous jouez. Et bien c'est une forme de jeu de rôle. C'est une pratique qui perdure toujours sous la forme du grandeur nature, une forme de jeu de rôle où les joueurs incarnent physiquement leur personnage de manière costumée. Là encore il y a des règles. Pour les combats par exemple, ils ne vont pas se taper dessus à grands coups d'épée pour de vrai, mais il y a par exemple une partie de Shifumi pour savoir qui va remporter un assaut. Vous l'imaginez déjà, le jeu de rôle est sans doute le plus vaste jeu et certainement celui qui offre le plus grand nombre de possibilités. Enfin, c'est simple, elles sont quasi infinies. La seule limite, l'imagination de ces joueurs. Ça vous fait pas envie tout ça ? Eh bien écoutez, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette émission, puisque on va pouvoir découvrir une partie. Vous en avez certainement vu sur YouTube ou sur d'autres plateformes de vidéos. Et souvent, c'est un constat que j'ai fait, on les écoute plus qu'on ne les regarde. C'est pour ça que je me suis permis de vous proposer ce programme qui va vous permettre d'écouter une histoire. La partie de ce soir sera sur l'appel de Cthulhu.
C'est l'appel de Cthulhu.
Comment vous dites ?
C'est l'appel de Cthulhu.
Vous verrez, dans quelques instants, Jean-Hugues vous parlera un petit peu plus de cet appel de Cthulhu. Mais avant d'entrer plus dans le sujet lui-même, faisons un rapide tour d'actualité des sorties ou annonces. L'éditeur Black Book Edition vient d'annoncer l'adaptation de la BD Les Légendaires de Patrick Sobral, publiée chez Delcourt, dans un format jeu de rôle. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est le moteur Chronique Oubliée, moteur habituel de Black Book Edition, qui officiera sur les règles du jeu, mais c'est fort probable. Autre projet de jeu de rôle qui devrait se lancer bientôt sur la plateforme de financement participatif Game on Tabletop, le label Ludica annonce en effet une nouvelle édition de Toan, adaptée de la saga de romans de Monde du Fleuve de l'écrivain américain Philip Joseph Farmer, où des héros de notre réalité se retrouvent dans un autre monde, un monde bordé par un fleuve qu'ils vont tenter de remonter. une série de romans qui a marqué son temps et qui a déjà eu une adaptation rôlistique il y a ça de nombreuses années. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Ce sera tout pour ce soir pour l'actualité du jeu de rôle. Nous reviendrons sur le différent financement participatif au fur et à mesure des épisodes chaque semaine avec un petit point sur les nouveautés, les sorties et ces financements qui sont devenus une sorte de passage obligé pour les créateurs de jeux de rôle ou pour les financements de jeux de rôle chez certains éditeurs. Je vous laisse en bonne compagnie avec Jean-Hugues qui va nous faire un petit rappel historique du fameux appel de Cthulhu.
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers auditeurs, bonjour. Alors, on va clamper la situation là où elle doit se trouver. Je m'appelle Jean-Hugues Villacampa, j'ai 62 ans et je joue au jeu de rôle depuis 1981, suite à la lecture d'un magazine. Il s'agit de Jeux et Stratégie, le légendaire numéro 4, où François Marcel Froideval nous fait un article de 8 pages sur ce phénomène né aux États-Unis. Ce garçon intégrera d'ailleurs brièvement TSR, mais c'est une autre histoire. Je me précipite alors au Cerf Blanc, qui est la boutique de Montpellier où je fais mes études. À l'époque, on ne joue qu'en anglais. Je fais rapidement l'acquisition de la gamme Advanced Dungeons & Dragons. Le Fianfolio Deities vient de sortir. Arrivé à Paris en 1985, j'apprends quelques jours plus tard qu'un de mes scénarios sort dans Infojeux Magazine, dont je deviendrai scénariste sur les numéros suivants, dont un scénario pour l'Appel de Cthulhu. En 1996, j'ouvre avec quelques amis une boutique au Quartier Latin, en face de la Sorbonne, du doux nom de Phénomène J, qui se trouve dans le triangle d'or du jeu de rôle, avec l'œuf cube, Descartes École, Star Player, et nous qui sommes au centre de tout ça. C'est une boutique alternative où vont passer toutes les stars du jeu de rôle et de la carte à collectionner, française et internationale, mais c'est une autre histoire. Nous y éditerons l'affaire Jonathan Deluce pour l'appel de Cthulhu, Thierry Crouzet, qui a récemment été réédité aux 12 singes. Alors, je lis de la science-fiction, fantastique, fantasy depuis l'âge de 11 ans, étant entouré de femmes fans du genre, et j'ai découvert Lovecraft à sa sortie chez J'ai lu science-fiction, et ça a été un véritable choc littéraire. En 1984, Jean Belcézac traduit l'appel de Cthulhu pour Jeu des cartes, et c'est le premier gros jeu en langue française. Alors, il était sorti auparavant des clones complexes de Donjons et Dragons sans véritable intérêt, hormis le fait d'être des créations françaises. À l'époque, nous, on jouait essentiellement à Space Opera, avec une calculette, Traveler et Donjons et Dragons. C'est à ce moment que Thierry Crouzet, encore lui, entre en scène, achète la boîte et me la donne en mode « Tiens, essaie de nous faire jouer à ça ». J'achète la campagne Les Fungi de Yougoth, réédité par Sans Détour avant son crash sous le nom Le Jour de la Bête, et nous voilà partis. Alors les avantages, c'est que le système Chaosium, c'est d'une simplicité réjouissante, basé sur des pourcentages en mode t'es en dessous, tu rates, t'es au-dessus, tu réussis, à quelques modificateurs simples près. Du coup, les revêches du simulationnisme se précipitent, les spécialistes du storytelling sont aux anges, dans un monde plus proche des nôtres et plus facilement abordable aux néophytes. Alors c'est un succès direct qui aura un second effet qui se coule, c'est que tout le monde se met à lire du Lovecraft en faisant un auteur fantastique de premier plan, écrasant même Stephen King, Masterton et autres Kunz dans les années 90. De plus, toute l'iconographie du jeu est superbe, ce qui change des mechetés de Donjons et Dragons et autres jeux d'époque. Qui a oublié en effet les incroyables illustrations de Philippe Cazat pour l'écran et l'ouvrage de base de la troisième édition. Alors la première édition est une book in box, et ça comporte des suppléments divers, dont un planisphère alternatif collant à la mythologie cthulhienne. Les premiers suppléments de scénarios en soft cover sont un succès. D'abord, ils sont bon marché, et ils sont très bien réalisés avec des scénarios qui resteront des légendes. Cela fait donc 37 ans que les investigateurs affrontent les machinations des grands anciens. Il serait temps de venir leur donner un coup de main.
Merci à toi Jean-Hugues. Jean-Hugues que vous retrouverez ponctuellement pour revenir sur la riche histoire du jeu de rôle comme il sait si bien le faire. Je précise que Jean-Hugues a vécu l'avènement du jeu de rôle et bien plus encore. Maintenant que vous savez tout ou presque sur le jeu de rôle, je vais quand même vous présenter un petit peu le concept de ce jeu, les quelques règles qu'il est important de connaître pour jouer à l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, les personnages sont souvent des gens du quotidien qui vont être confrontés au fantastique. Afin de gérer les différentes interactions, ils ont des caractéristiques qui quantifient leur personnage et des capacités, leurs compétences. Ces compétences sont régies par un système de pourcentage. Le jeu est extrêmement simple à comprendre. Vous avez par exemple la compétence de médecine, vous avez 55%, vous allez jeter un dé 100, donc ça correspond à 2 dés à 10 faces, un dé qui en général est numéroté de 1 à 10 et l'autre de 10 à 90, de 0 à 90. Vous jetez les 2 dés, vous faites votre lecture et en fonction de votre résultat, si le résultat est inférieur à votre pourcentage de compétences, 55 pour la médecine dont on vient de parler, eh bien vous avez réussi votre jet. Si vous ratez votre jet, c'est simplement que vous n'avez pas réussi. Ça peut aussi se traduire par un manque de concentration, par un manque d'information. Simplement, ça reste un échec. La particularité de l'appel de Cthulhu, c'est que les joueurs ont une caractéristique qui s'appelle la SAN, la santé mentale. Comme dans les écrits de Lovecraft, les gens confrontés à certaines doses de fantastique un petit peu hors du commun n'arrivent pas à passer outre mentalement et font preuve leur cerveau se met en sécurité, développant des folies. Les folies à l'appel de Cthulhu peuvent être temporaires ou permanentes. C'est un petit peu tout le sel du jeu. Les joueurs vont être confrontés à ces choses fantastiques et devoir arriver à gérer leurs émotions, leurs folies, pour arriver au bout de l'histoire. Voilà, vous savez à peu près tout sur le jeu de rôle et sur l'appel de Cthulhu dont vous allez jouer. Je vous propose de vous rafraîchir les oreilles avant d'entrer dans le gros morceau, la partie elle-même. Bon, j'ai choisi un morceau de musical d'actualité avec Call of Cthulhu de Metallica.
Radio G 101.5 FM.
Thank you. Radio G 101.5 FM.
Vous venez d'écouter Call of Cthulhu de Metallica. Les joueurs de ce soir vont se retrouver dans notre monde, en Écosse, dans les années 1900. Je vous laisse écouter la partie. On va jouer à l'appel de Cthulhu. On va jouer en Écosse dans les années 1900. Et pour cette partie, j'ai le plaisir d'accueillir Marc, Julie, Jonathan et Thierry. Salut à tous.
Salut. Salut.
Alors, je vais vous inviter à présenter vos personnages. Qui veut se lancer en premier ?
Honneur aux dames.
Forcément, je suis la seule.
Donc, parle bien en face de ton micro. Et ouais, les réflexes doivent se prendre.
C'est ça. Alors, on va faire comme ça, ça va être plus pratique.
Yes.
Donc, je m'appelle Bonnie, j'ai 25 ans et je suis, je suppose, la gouvernante de Mylord.
Tout à fait.
Tu as 25 ans depuis combien d'années ?
Depuis 25 ans, pourquoi ? Tu doutes de mon âge ?
50 ans.
Ensuite, tiens, Jonathan.
Alors moi, je suis Warwick Stanford, journaliste au Herald. Environ 40 ans, et voilà.
Ok. Thierry ?
Bien, je suis John Harrington, et je suis professeur de psychanalyse et psychanalyste de Lord, je ne sais pas encore comment, et j'ai 45 ans.
Ok.
Eh bien, Lord, je ne sais pas comment, s'appelle en fait Lord Ian McCrory, donc c'est un Lord écossais de 47 ans.
Donc vous êtes quatre personnages et vous avez décidé en fait de partir découvrir la distillerie que vient d'acheter le Lord. Le journaliste a été convié pour faire une belle couverture presse puisque le scellement de l'alambic géant va être fait. Donc vous êtes dans le nord de l'Écosse la distillerie va ouvrir à Breivik, qui est sur l'île juste en face. C'est l'île de West. Donc, c'est à 200 km en fait, de là où vous résidez. Donc, il faut partir de Durness, au nord de l'Écosse, et prendre un bateau qui va pouvoir vous déposer à Breivik pour pouvoir faire tout ça. Il faut savoir que cette distillerie, notre ami le psychanalyste, a décidé de prendre quelque part dedans. Et c'est pour ça qu'il sera aussi parti du voyage. Et le Lord est bien entendu accompagné de sa gouvernante qui va pouvoir servir d'intendance sur place.
C'est le truc de gouvernante.
Voilà.
Donc vous avez le matériel qu'il vous sied. J'imagine que tu as un appareil photo, ce serait quand même pas mal.
Oui.
En tant que journaliste, toi tu dois avoir ton petit carnet en tant que psychanalyste. Ta bonhomie et ton portefeuille, j'imagine, en tant
voilà.
que Lord.
Très bien.
Et son chapeau haute forme.
Ah non, pas de chapeau haute forme. Par contre, j'ai mon kit.
Un vrai Lord.
Il y a du vent sur le bateau.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire avant d'embarquer sur ce bateau ? Est-ce que vous avez besoin de certaines choses, des préparatifs spécifiques ?
Pour moi, vérifier le matériel de l'appareil photo, les pellicules, au niveau également flash. Je ne sais plus comment fonctionnent les flashs de l'époque.
C'est des flashs à magnésium.
Magnésium ?
Ouais. Tu as une détonation qui se fait, ça fait pouf.
Et ensuite, tout ce qui est carnet, crayon, bouquin, enfin, etc. Et prévenir mes patrons au Herald que je m'en vais quelques jours.
Ok, tout à fait. C'est nickel. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à prévoir ?
À prévoir, pas spécialement. Moi, je voulais juste m'entretenir un instant avec le journaliste pour lui demander, puisque de toute façon, je fais partie du voyage, donc je serai dans son reportage, mais lui demander d'omettre le fait que j'ai quelque part dans cette distillerie.
Oui, enfin...
Pour quelle raison, mon ami ?
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler de ça. Ah. Je ne vois pas l'intérêt.
Ok. Si vos préparatifs sont tous faits, vous avez trouvé un petit bateau, un bateau léger, avec un équipage simple. Il y a un capitaine et un mousse. Bon, pour 200 km, il n'y a pas grand chose à faire, surtout sur une mer, on va dire, globalement assez calme. Et vous avez décidé d'appareiller dès le lendemain. Le départ est prévu pour le matin. Vous embarquez, le temps est beau, il fait grand soleil. Et vous commencez la traversée. Le capitaine est plutôt confiant. Il n'y a pas trop de mer d'huile, presque.
Oh, c'est rare.
C'est assez rare, surtout dans une région où normalement il pleut quand même quasiment 95% du temps.
Mais on est bien en Écosse là, on est
sûr. Oui, vous êtes bien en Écosse.
C'est étrange. C'est un phénomène paranormal, je trouve.
Eh bien justement, le temps arrive à vous rattraper. Et vous avez beau être sur les coups de 9-10 heures du matin, le temps s'assombrit énormément et il commence à pleuvoir.
Me voilà rassuré.
Ça nous aurait manqué.
Mais une pluie qui commence à devenir quand même assez dense. Une pluie qui commence à devenir un petit peu inquiétante vis-à-vis du capitaine, qui commence à se poser des questions. Le vent se lève, au loin, commence à avoir des éclairs qui arrivent. Et vraiment, on a l'impression de se retrouver en pleine nuit. Il y a une espèce de chape de noirceur et de pluie qui tombe et qui commence à bouger pas mal le bateau. Là, je pourrais vous faire un petit jet pour voir si vous gardez votre repas du matin. Ce qui pourrait...
Vas-y.
Allez, go. Faites-moi un petit jet.
Un petit jet
de constitution, du coup.
C'est raté.
Donc, la mer est belle, hein. Ça ferait une belle photo, hein, mais pff, le petit jet, je ne l'ai pas gardé non plus.
Donc ouais. Je vis de tripes et boyaux par-dessus le bastingage.
Non, le kilt de Milord, pardon.
Hormis Milord qui...
Milord, comme disait mon ancêtre Connor, je suis un homme, pas un poisson. Donc, gros échec évidemment.
Ok, donc tout le monde est malade, tout le monde commence à se sentir vraiment pas bien. Il y a une grande houle, le capitaine... n'a pas l'air très serein. T'as pas forcément besoin de faire un jet de psychanalyse par exemple pour te rendre compte que il commence à flipper un petit peu grave. Il essaie de barrer et très vite vous avez l'impression qu'il est perdu.
On se permet d'aller, je pense que moi déjà aller le voir pour lui crier à peu près s'il y a une petite île pas loin ou une crique où s'abriter en disant regarde de voir si on arrive à voir quelque chose à l'horizon malgré la pluie.
Alors, tu te déplaces vers lui et entre deux, le cœur se fait peut-être un endroit où on pourrait se...
Voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, mais le problème, c'est que je suis complètement perdu. Normalement, on a un phare là qui nous permet de guider et il n'y a rien, il n'y a pas de lumière.
Faites votre travail, enfin.
Laissez-moi faire alors.
Il essaie de naviguer comme il peut, il sort ses instruments, c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucune étoile, aucune visibilité. Et vraiment, effectivement, vous regardez autour, il n'y a rien, quoi. Là, vous pourriez me faire un jet de toc, par exemple, qui pourrait être rigolo.
Un jet de toc.
Donc, c'est trouver objet caché.
Ouais.
C'est la grande compétence à l'appel de Cthulhu. Mm-hmm.
C'est réussi.
C'est réussi.
Ouais, je l'ai réussi de 10. Ça, c'est ça. 13 pour 25, en fait.
C'est le vert, ton...
Ouais.
Oui.
Ouais, moi, c'est le foncé.
C'est une réussite majeure.
Ouais. Elle a fait 7.
Ouais, moi, j'ai bien réussi.
Super. T'es la première à distinguer, tu sais, tu commences à mire au-dessus du bastingage, et puis tu relèves la tête, et tu vois au fond, tu fais « C'est quoi ça ?» Et tout le monde regarde instinctivement dans cette direction, et effectivement, au loin, vous distinguez. Ça fait bizarre, parce que à l'endroit où devrait être à peu près la lune en hauteur, et ben vous avez un œil, espèce de gigantesque œil, t'as l'impression qu'il vous regarde directement. Et puis c'est fugace, ça disparaît d'un coup. Ouais. Comme si c'était passé entre deux nuages.
Je commence à allumer. J'allume un cigare dans un coin, je me dis que j'ai perdu la tête.
By Jove.
Pas loin.
Moi j'essaye de me rassurer avec des concepts psychanalytiques.
Moi je continue à vomir par-dessus le bastingage.
C'est une illusion d'optique, c'est évident.
Chacun se rassénère un petit peu comme il le souhaite, comme il le tente. Et vous passez un bon moment en fait. Le bastingage, ça devient de plus en plus houleux, ça devient de plus en plus compliqué. Quand soudain, vous avez un grand craquement qui survient. Suivi d'un gros choc. Là, vous essayez de vous accrocher tant bien que mal et vous basculez par-dessus bord.
Ah oui, quand même.
Vous perdez tous connaissance.
Ah ouais, les cigares.
Ma belle robe neuve.
Au bout d'un temps que vous n'arrivez pas à déterminer, vous commencez à reprendre connaissance les uns après les autres. Et vous avez l'impression d'être sur une sorte de petite plage. Il pleut toujours. Vous avez toujours l'impression qu'il fait entièrement nuit. Sur la droite, vous avez votre navire qui a une espèce de gros trou, en fait, dedans. Bon, après, il s'est pris une falaise, visiblement, donc ça explique peut-être cela. Et vous êtes sur une espèce de petite plage, un petit peu plus loin, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de grande pente herbeuse. Et puis sur la droite, vous avez une sorte de grande plaque au sol, mais qui monte par degrés. Vous pensez que c'est des marches, mais vous savez pas trop vers quoi ça peut vous mener.
Moi, j'avoue, d'abord, j'éclate de rire parce que le simple fait d'être vivant sur une plage alors que le bateau est éventré juste à côté de moi, ça me fait clairement halluciner. C'est, personnellement, je me voyais plutôt comme mort.
C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup.
Ah bah oui. Oui, moi, par contre, je suis content. Je regarde autour de moi s'il y a du monde.
Je me redresse de toute ma hauteur, un petit 1m92. Ah. J'essaie d'essorer l'eau qui imbibe mon kilt, en pure laine. Je cherche de... les autres passagers du regard. Mr. Harrington ?
Oui. Bien. Oh. Je me sens mal, je crois. Encore.
Au moins, nous avons mis pied sur la terre ferme. Ma brave Bonnie, vous êtes là aussi ?
Oui, je suis là, my lord. Attendez, laissez-moi vous aider, je vais finir de vous épousseter. Vous ne pouvez décemment pas explorer l'île comme ça.
C'est clair.
Ce trou est formidable.
Cherche-moi voir si j'ai une flasque de whisky. Tu dois bien voir ça en tant que journaliste.
Tu peux avoir effectivement une flasque de whisky, alors du traditionnel écossais, tant qu'à faire. Bon.
Milord, Mr. Harrington.
Très volontiers.
Partagez.
Partageons.
Pas les bonnies, je vais.
Vous êtes un petit peu regardé, mais nulle trace du mousse et du capitaine.
Allez, on va fouiller le bateau, du coup, je propose.
Damn. Jetons un œil.
Allons voir l'épave.
Essayons de voir ça.
Ok.
Est-ce que vous savez où nous nous trouvons, Milord? Vous connaissez peut-être bien la région.
Est-ce que cette île me dit quelque chose?
La configuration, t'es pas sûr. Tu penses que t'es pas du bon côté de l'endroit où vous deviez aller. Ah. En fait, là où vous êtes parti, Dennis, fallait redescendre dans une espèce de petite crique pour aller à Brevig. Mm-hmm. Et en fait, t'as l'impression que vous êtes peut-être passé au-dessus du haut mauvais temps et que vous êtes sur une petite île qui serait un petit peu plus loin. Il faut savoir que cette zone en fait, de l'Écosse, c'est une zone qui est couverte de plein de petites îles. C'est pour ça qu'il y a un grand phare normalement qui est allumé à cet endroit-là. Le phare d'Eilean Mór, ça tu le connais, il n'y a pas de souci. Mais tu ne saurais pas dire où tu es situé. Et comme il fait très très sombre, c'est quand même un petit peu compliqué de voir ce qu'il y a autour.
Eh bien, il semblerait que le capitaine nous ait emmenés dans un endroit inédit, dirons-nous.
Vous n'êtes pas au bon endroit, monsieur ?
Absolument pas.
Pas du tout. Vraiment, ce capitaine était mauvais.
Hein. Il n'était pas de la région d'après son accent.
Non.
Je pense qu'il a fait ce qu'il peut avec ce qu'il pouvait.
Ah, on sait
avec
jamais.
Ce qu'il avait surtout.
Allons voir, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Allons voir le navire déjà, on en apprendra peut-être plus.
Vous faites un bref topo du navire. C'était vraiment une petite embarcation avec une cabine et puis une cale. Bon, vous faites un petit tour, il n'y a pas grand-chose hormis du matériel dedans. Et effectivement, nulle trace du mousse et du capitaine.
Il y a quoi comme matériel ?
Des cordes, des bouées de sauvetage.
Pas de lampe ?
Pas de lampe, non.
Dommage.
Je prends la corde.
Il y a une petite lampe dans la cabine, mais elle est brisée. Avec le choc, c'est pas étonnant non plus.
Non, c'est pas étonnant, mais on en aurait trouvé une à peu près fonctionnelle, vu qu'il fait nuit noire, ça aurait pu.
Ça aurait été pas mal. Bien, pendant que tu es en train de regarder un petit peu, au loin, tu distingues un petit peu plus loin, alors pas du côté des espèces de grandes marches de pierre, mais tu distingues une espèce de petite lueur tremblotante. Au départ, tu n'es pas sûr en fait qu'il y a cette petite lueur. Tu es là, tu regardes, tu fixes, puis ça apparaît, disparaît. Alors tu ne sais pas si c'est avec les rideaux de pluie que ça te cache un petit peu la vue ou si c'est que c'est quelque chose qui bouge.
Messieurs, my lord, je vois quelque chose vers la pente. Est-ce mon imagination ou est-ce bien une lueur ?
On regarde, du coup.
Effectivement, maintenant que vous commencez à essayer de distinguer un petit peu plus loin, il y a une vague lueur tremblotante dans le fond. Vous n'êtes pas capable d'estimer la distance.
Il a l'air habité. On devrait aller voir.
Ouais, bah quoi, Bonnie, vous avez de bons yeux, finalement.
Donc c'est sur l'île, la lueur, c'est pas
sur l'île, la lueur.
D'accord.
Ouais. Je prends quand même la corde, parce que ça peut toujours servir à récupérer le pécard d'un bateau.
Ni fusée de en fait, c'est de la grosse corde, hein. Ça va être un petit peu...
Peut-être pas m'encombrer, alors.
Puis là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que vous commencez à avoir quand même vachement froid. Ça fait un moment.
Allons voir la lueur, du coup, peut-être qu'il y a une maison.
Il n'y a pas de couverture. par hasard.
Non, il n'y a pas de couverture.
Ouais, moi, j'aurais voulu trouver quelques vivres éventuellement. On a quand même vomi toute la journée.
Non, moi, j'ai plus faim.
Il faut remplir un peu l'estomac et le whisky.
Monsieur Rington, si vous voulez, j'ai du whisky. On a de quoi se nourrir.
Ouais, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Parfois, tant pis. Allons à la lumière. Peut-être qu'ils auront des vivres, en tout cas.
Pendant que tu es en train de regarder un petit peu au niveau du bateau, comme ça, tu es là, tu soupires. T'as passé un mauvais moment. Hein. Et puis tu regardes un petit peu à la verticale de cette espèce de falaise, et puis tu sembles distinguer une espèce de grande masse sombre verticale. Une sorte de, je sais pas, grand pic monolithique. Je sais pas trop ce que c'est.
Avez-vous vu le phallus géant qui est là-bas?
Je l'ai pas fait.
Non, je suis psychanalyste.
Du coup, je cherche un phallus géant que me montre Monsieur Harrington en me demandant qui est ce type, d'ailleurs.
Bonjour, je suis psychanalyste.
En te montrant en fait la zone ombreuse, parce que c'est plus une ombre en fait qui se distingue dans la nuit, vous avez l'impression de distinguer les contours d'un phare.
Ah. Vous voyez,
je pense que M. Harrington a des problèmes.
Je pense que nous comprenons mieux, en tout cas, d'où vient cette lumière.
C'est dans la direction de la lueur qu'on avait.
Pas du tout.
Encore moins, mais décidément. Je pense en tout cas que
le whisky était peut-être trop fort pour vous, monsieur.
Peut-être.
Par contre, je serais d'avis peut-être d'aller vers le phare. Au moins, on sait que c'est abrité. Il y a parfois des personnes, enfin souvent des personnes, des vivres, du matériel. C'est accessible.
Ça a l'air d'être accessible. Vous avez l'impression qu'il faut suivre en fait les espèces de grandes dalles. C'est une sorte d'escalier qui mène au phare.
Bon, bien, je suis complètement d'accord avec vous.
Allons-y.
En fait, vous avez les marches plutôt sur votre droite, qui vont visiblement vers le phare, et la lueur est plutôt dans le fond sur votre gauche.
Oui, la lueur me paraît assez lointaine. Dans l'immédiat, si nous pouvions trouver refuge dans ce phare qui a l'air pas très loin.
Au moins faire sécher nos vêtements.
Exactement.
Donc j'y vais en courant directement.
Ok. Alors c'est compliqué puisque les marches sont quand même pas mal glissantes. Tout semble détrempé, comme si effectivement c'était gorgé d'eau depuis des dizaines et des dizaines de jours.
L'Écosse.
Et que, ouais.
Mais en plus mouillé.
En Écosse.
C'est de l'Écosse mouillée. Oh. Donc vous commencez à grimper. Vous y allez tous, hein, j'imagine.
Oui.
Donc vous commencez à grimper en fait ces espèces de marches qui sont assez espacées. C'est il y en a une vingtaine, une trentaine. Vous n'avez pas vraiment pris le compte, ce qui fait noir, c'est pas hyper agréable. En plus, vous êtes vraiment frigorifié. Hein. Et vous arrivez devant, effectivement, le grand cylindre vertical d'un phare. Le phare est éteint.
Ah, allons vers la porte. Il y a une porte en bas, j'imagine.
Ouais, il y a une espèce de grande porte en acier. Vous la poussez, elle s'ouvre sans problème.
Parfait.
Bonnie, il va falloir faire un feu. Que faites-vous encore à ne rien faire?
Je ne suis pas à vos ordres, monsieur, mais aux ordres de My Lord.
Il est vrai, certes, mais vous êtes ici pour jouer la majordome, n'est-ce pas?
Oui, mais pas la vôtre. My Lord, que faisons-nous?
Écoutez, Bonnie, allons regarder ce qu'il y a dans ce phare. Où pouvons-nous nous installer, peut-être?
Pendant que vous installez, si vous voulez, moi je vais directement dans le phare. Il y a genre des escaliers pour aller tout en haut. Pendant que vous installez ou allumez un feu, je vais déjà, si vous voulez, avec Mr. Harrington, on va aller explorer l'étage pour voir s'il y a quelque chose à récupérer. Ouais. Et on va se mettre au rez-de-chaussée.
Oui,
prenez le psychanalyste pour analyser le phallus géant.
Voilà, puis si jamais il y a un accident en haut de phare, ça fera toujours. Bref, non.
Donc effectivement, vous rentrez dans ce phare, dans la salle principale du phare. Je vous la décris principalement, et puis après on divisera les groupes.
D'accord.
Là, vous êtes sur ce qui semble être la pièce de vie au quotidien. Vous avez une grande table, autour vous avez divers accessoires, un peu de vaisselle, une espèce de grande une chaudière à bois.
Parfait.
Et sur le côté, vous avez un porte-manteau avec une paire de bottes et un ciré jaune. Ça fait un peu cliché, mais ça reste un ciré jaune qui parle bien. Et vous avez plusieurs éléments, comme ça. Vous avez un espèce de petit bout de bibliothèque avec 3-4 bouquins qui se battent en duel, qui visiblement n'est pas utilisé très souvent. Vous avez une table avec un jeu d'échecs en cours. Vous avez deux fauteuils de chaque côté. Mm-hmm. Et puis surtout sur la table principale, il y a le couvert dressé pour visiblement une personne, avec des restes alimentaires dans l'assiette, et la chaise est renversée.
Récents, les restes alimentaires, ou moisis?
Ils ont l'air encore frais.
Bon, ben, on va appeler en montant avec M. Harrington déjà.
Moi j'irais bien juste jeter un œil à la bibliothèque d'abord, regarder quel genre de livre il y a.
Bon, ben, je monte tout seul.
Là, vous avez
j'arrive dans un instant.
Vous avez un escalier en fait qui va commencer à monter en colimaçon, qui semble aller vers l'étage également, effectivement.
D'accord.
La bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque avec quelques ouvrages, principalement des ouvrages techniques, et quelques journaux. Tu peux prendre le temps de les feuilleter, mais ça va te demander un peu de temps.
Non, c'était juste pour regarder, je redescendrai, je reverrai mieux tout à l'heure.
Okay. Je crois que ce sont les allumes-feux, en fait.
Oui, ça peut.
En entrant, moi, je dis simplement « Oui, il y a quelqu'un ?» Anybody home? Anybody home? Anybody home?
T'attends quelques instants, tu n'as comme réponse que le seul écho de ta voix.
Nous allons aller regarder à l'étage, Milan.
Bonnie, je vous laisse préparer le feu.
Bien sûr.
Il n'y a plus de feu, c'est déjà éteint.
Le feu est encore. Quand Bonnie arrive au niveau du poêle, il y a des ersatz de braise. C'est pas tout à fait mort, mais ça fait un petit moment que personne ne s'en occupe.
Je vais pouvoir m'occuper du feu alors.
D'accord.
Selon les ordres de My Lord.
C'est pas Milord. Du coup, on va quand même manger.
Je murmure à l'oreille de Mylord.
Du coup, on va quand même enlever juste les imperméables, tous les vêtements détrempés, au moins le manteau, tout ça, les mettre de côté à sécher.
Ok. Parce que ça veut dire que vous vous retrouvez en sous-vêtements, là.
Je garde le pantalon quand même, il y a une dame.
Moi, je garde le kilt.
Moi, j'enlève juste ma veste, je garde ma chemise et mon pantalon.
Dieu merci.
Ok.
Voilà, et on va aller explorer avec M. Harrington l'étage en appelant au fur et à mesure de l'escalier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis on continue à monter tranquillement.
Toujours que l'écho de votre voix. Arrivé à l'étage, vous vous rendez compte que c'est vraisemblablement le dortoir. Il y a trois lits disposés avec plusieurs armoires et visiblement du matériel. C'est assez sommairement...
C'est vétuste.
Vétuste, voilà.
On pourra se poser au sec au moins.
Vous trouvez, effectivement, tu regardes dans un coin, il y a quelques couvertures. Voilà. C'est pas,
Il y aura peut-être quelques vêtements de rechange. Fouillons un peu.
Oui, et puis on va descendre les couvertures aussi pour pouvoir se réchauffer. Et il y a encore une. Ça monte encore jusqu'à.
Ça monte encore jusqu'à visiblement la hauteur.
Continuons d'abord.
Et explorons.
Ok. Vous continuez à grimper et vous arrivez effectivement sur une espèce de seuil qui va à une porte vers l'extérieur. Vous poussez cette porte. Et vous arrivez sur une coupole de phare. Vous avez la grande lampe du phare qui semble complètement éteinte. Et vous avez la nuit partout autour.
Ça continue au niveau orage et pluie à l'extérieur?
Tout à fait.
Oui, la vue doit être...
Le temps ne s'est pas calmé, il fait toujours aussi sombre. Il pleut toujours autant. Il fait globalement très très froid. Je pense que la coupole, vous n'avez peut-être pas passé le temps à l'explorer maintenant. Que vous avez peut-être boucaillé un petit peu les riches.
C'est surtout vérifier, il n'y a personne. Surtout ça le plus important.
Il n'y a personne. Aucune personne visible en tout cas.
Ce que je vous propose, M. Harrington, c'est de... On redescend aux chambres et on redescend les couvertures, de quoi se sécher et tout ça, au moins pour que Milord et Madame puissent se sécher, c'est un minimum.
Faisons cela, moi aussi. Hein.
Vous êtes resté un petit peu dans le hall, le temps en fait que Bonnie prépare remette en état le feu. T'as des bûches sur le côté, donc t'as moyen de relancer ça assez facilement. Tu tisonnes un petit peu parce qu'il y a besoin. Hein, il était vraiment moribond. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas transi de froid dedans, qu'il y a une chaleur qui a été conservée, mais quand même.
Mais ça fait plusieurs heures que personne ne s'en est occupé.
Tout à fait.
Donc potentiellement plusieurs heures que le phare n'est plus habité.
D'accord.
Et peut-être plus allumé.
Plus allumé.
Bon, en redescendant avec les couvertures des gens, on vous dit, Milord, il n'y a personne étrangement à l'intérieur. Et j'ai l'impression que le ciré du gardien de phare est encore là. Peut-être est-il à l'extérieur, pas très loin.
Pendant qu'ils étaient en haut, il y a qu'une seule pièce au rez-de-chaussée. D'accord, il n'y a
qu'une
rien
seule pièce.
On ne peut pas explorer d'autres endroits. Non,
c'est vraiment des grandes pièces circulaires. Alors, ils ont cloisonné un petit peu. Tu as une espèce de petite réserve avec un peu de nourriture. Tu as, allez, peut-être une semaine de provisions pour deux ou trois personnes. Tu n'es pas vraiment sûr. Par contre, une chose qui te frappe, c'est que le seul phare vraiment dans le coin, c'est le phare d'Hélène-Mort.
Eh oui.
Mais normalement, il est toujours allumé.
Et on n'est pas censé être à Hélène-Mort, du coup.
Bah, Hélène-Mort est dans la zone, en fait, de l'autre côté. Celle que tu supposais. Donc, ouais, une seule pièce. Il y a un petit peu d'équipement qui est posé à divers endroits.
Donc, effectivement, si vous n'avez trouvé personne dans les étages, C'est étrange. Ça signifierait que l'occupant, visiblement, il n'y avait qu'un couvert, donc un seul occupant à ma connaissance, soit sorti sans même ses bottes ni son ciré.
J'hésiterais bien, parce qu'un d'entre nous emprunte les bottes et le ciré, face au moins le tour du phare. Peut-être que la personne est sortie. Elle ne doit pas être très loin. Dans tous les cas, il y a forcément quelqu'un ici.
Peut-être pas urgence.
Je vais mettre la chemise à sécher également. On va essayer d'étaler d'étendre les vêtements pas loin du feu pour.
Il serait peut-être bon aussi de tenter, en tout cas, de rallumer le phare entièrement pour éviter que d'autres voyageurs comme nous.
J'hésitais, mais je ne connais pas.
Partent en mer.
Je ne connais pas le système, néanmoins. Peut-être dans les livres ou quelque chose, ou si on trouve le gardien, tout simplement.
J'ai regardé ça dans les livres de technique.
Ok.
J'ai trouvé quelque chose et je vous le passerai.
Donc, une recherche dans les livres de technique. Toi, tu fais quoi, Bonnie ?
Eh bien, je vais prendre soin de ces messieurs et de. Je vais étendre leur petit linge. Je vais étendre leur petit linge pour qu'ils soient bien au sec.
Ne vous embêtez pas, madame, je peux m'occuper de mon linge.
Faites plutôt donc un repas, voyons.
Oui, est-ce qu'il y a des vivres, c'est ça.
C'est une très bonne idée.
Il y a des vivres.
Je sais.
Effectivement, tu penses aux vivres, tu commences à regarder un petit peu la fameuse assiette qui est là. C'est une espèce de ragoût à base de carottes. C'est pas trop ce que c'est. Effectivement, tu touches par acquis de conscience, c'est froid depuis plusieurs heures.
J'ai juste le doigt dedans et je goûte pour voir.
C'est pas avarié, okay. C'est juste froid.
Quel courage.
Wow, j'étais homme de terrain.
Bonnie est une excellente cuisinière, je ne doute pas qu'elle nous préparera un petit plat assez rapidement avec les mecs qui sont disponibles.
Je vais voir ce que je peux faire, Maïda.
Je cherche aussi tout en fait confiance. La réserve de survie, le whisky.
Il en a. Étrangement, il y a assez peu d'alcool. Tu trouves deux petites bouteilles qui sont, mais c'est des demi-bouteilles de whisky, tu penses, mais tu n'es pas sûr.
Je goûte.
Tu goûtes. C'est un whisky, mais pas forcément de très très bonne qualité.
Ah. Bon, si on a besoin d'allumer le feu, de lancer un peu plus le feu, ça pourrait nous servir pour le phare, mais ce n'est pas très bon, malheureusement.
My lord, qu'est-ce que vous faites ?
Est-ce qu'il y a une horloge, une montre quelque part, quelque chose qui nous dit quelle heure il est ?
Eh bien, étrangement, non.
On est pendant la nuit.
Et vous n'avez pas de montre sur vous ?
Vous êtes parti le matin, tu penses que ça fait quand même. Vous êtes parti trop tôt pour que ce soit déjà la nuit. À ton baromètre intérieur, à ton.
Oui, c'est ça, parce qu'on sait pas.
T'as pas plus faim que ça, en fait.
On sait pas combien de temps on a été inconscient.
Non,
donc,
peut-être.
Aucune
peut-être
idée
que c'est un autre accident dû à un choc. C'est étrange, mais il vaut mieux se restaurer tout de même.
Et d'ailleurs, je suis en train de penser, ma montre à gousset, est-ce qu'elle est toujours là ?
Mais tu l'as toujours, effectivement.
Elle fonctionne toujours, peut-être. Ouais.
Tu la sors. Bon, il est à peu près 11h30. Bah. Du matin.
11h30 du matin.
Ah,
il est bientôt l'heure de manger, c'est parfait.
Oh, je savais que ce capitaine était incompétent, il cherchait des étoiles à 10h du matin, en même temps.
Et il fait donc toujours obscur dehors.
Toujours obscur dehors.
Mais obscur.
C'est bizarre, on dirait.
T'as l'impression qu'il fait nuit noire dehors, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est pas simplement une grosse couverture nuageuse.
Non, il y a de ça, mais peut-être pas que.
Ouais.
C'est rare de voir des orages aussi sombres dans la région. Ou alors c'est peut-être votre montre.
Très bizarre. Non, ma montre fonctionne bien, c'est pure technologie d'Édimbourg.
Ah oui, évidemment.
Ce que je trouve...
Tu commences à regarder effectivement les ouvrages techniques, un petit peu les journaux, tu parcours un petit peu tout ce que tu peux trouver. Tu penses qu'avec l'aide de quelqu'un et puis avec l'aide de l'ouvrage, tu pourrais arriver à relancer en fait le phare. C'est une base assez simple, en fait c'est un combustible qui est mis à l'intérieur, qui va brûler, donc il faut toujours l'alimenter. Et puis une fois qu'il est lancé, il faut une espèce d'inertie à mettre. Il semble y avoir une espèce de liquide en fait qui permet... au truc de tourner.
Je vais venez donc avec moi, Monsieur Stanford, et puis nous allons voir si le matériel est là et si nous pouvons rallumer ce phare.
Avec plaisir, j'arrive.
Remettons de la lumière là-dedans.
Je vais en même temps regarder les journaux aussi. Je ne trouve jamais.
Ok. Autour de vous, en fait, vous avez donc toutes les pièces sont allumées par des espèces de petites lampes à pétrole qui sont disséminées un petit peu partout. Vous vous dites que si vous voulez passer en extérieur, prendre une lampe tempête, ce serait quand même plutôt pas mal pour voir quelque chose. Parce qu'effectivement, quand vous êtes monté là-haut, il faisait quand même vraiment sombre.
Si vous voulez, je vais prendre les bottes et le ciré. Je vais déjà, comme je le disais, faire un tour du phare très rapide parce que ça m'inquiète un peu pour le gardien qui ne soit pas encore rentré.
Donc en extérieur ?
En extérieur également. Okay. Puis oui, si je peux trouver quelque chose d'utile.
Revenez vite.
Je vais faire attention.
Il vaut peut-être mieux qu'on sorte à deux. Une personne isolée dans ce temps.
Vous avez raison.
C'est un peu dangereux. Je vous accompagne.
Avec plaisir. Je voulais le ciré peut-être.
Ça ira comme ça.
Très bien. Allons-y.
Bon, bah, ma foi, je continue à regarder les journaux alors pendant ce temps-là.
Ok. Au niveau gabarit, tu fais quelle taille à peu près
Environ 1m80, je suis grand pour l'époque.
Ok, donc t'es un petit peu grand, mais Mylord est beaucoup plus grand.
Mylord est beaucoup plus grand.
Ah, effectivement.
Mais le ciré est étroit quand même. Donc t'es un peu engoncé dedans, vous sortez effectivement tout de suite, le froid vous saisit, la flotte vous tape sur le visage. Cette nuit impressionnante, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étoiles, rien de visible. Et vous commencez à faire le tour en fait de la tour du phare, le tour de la tour. Bref. Et arrivez un petit peu plus loin, donc vous éloignez pas énormément parce que comme il n'y a pas beaucoup de visibilité, c'est pas super pratique. Et arrivez sur presque l'abrupte en tête de la falaise, vous remarquez qu'il y a des caisses de cordes qui sont là, qui sont ouvertes. Les cordes ne sont pas dedans. Chose qui est plutôt... Donc c'est des caisses qui sont prévues à la base en fait pour pouvoir aider les navires soit à récupérer les personnes qui se sont qui sont naufragées, soit aider les navires en fait à s'accoster et là les cordes sont pas là.
D'accord, et on est en bord de falaise, ouais, c'est ça.
Là vous êtes en bord de falaise, ouais.
Je vais pas m'allonger assez prudemment de manière pour regarder en bas de la falaise si je vois quelque chose, tout en demandant à Mylord assurez-moi s'il vous plaît.
Absolument. Alors, tu te retrouves avec un apic d'à peu près 40 mètres.
Wow. Et il n'y a rien en bas de particulier?
Rien de particulier. Effectivement, c'est une grande falaise de granit avec quelques petits rochers épars. Tu te dis que si tu devais sauter d'ici, c'est pas forcément une bonne idée parce que t'es pas sûr d'arriver à esquiver non seulement le plat phénoménal que tu ferais, mais également les petits rochers qui risquent de te déchiqueter.
Nous irons nous baigner demain, Mylord.
Nous irons nous baigner demain, Mylord.
Vous voyez quelque chose?
Rien. De l'eau. Remontez-moi par contre, s'il vous plaît, j'en peux plus.
Je l'aide effectivement à remonter.
Effectivement, tu t'étais séché un petit peu, là tu t'es rafalé de l'herbe hyper trempée. Enfin, c'est pas le truc agréable. Effectivement, vous refaites tout le tour, rien de notable autour. Vous regardez un petit peu au loin, effectivement, vous redistinguez. C'est très vague en fait, la petite lueur qui est loin.
Mais elle est sur l'île, c'est ça la lueur.
La lueur semble être sur l'île, ouais.
Que la tempête s'arrêtera et ça va peut-être temps d'aller dans cette direction.
Oui, je pense que nous pouvons attendre un peu.
Quand tu prononces ces mots, tu te rappelles en fait un petit peu des différentes choses que tu connais sur le phare des Lannemores. C'est qu'il est sur une toute petite île où il n'y a absolument rien hormis le phare et une espèce de petite chapelle rustique. Tu as déjà vu des dessins en fait de cette chapelle rustique. C'est vraiment une chapelle qui a été construite avec des blocs de façon à avoir un abri principal à l'intérieur. Il y a probablement pas des accessoires de rite, mais de quoi prier. Mais t'as jamais vu l'intérieur. Mais tu sais que c'est vraiment c'est plus digne d'une cabane de jardin que d'une chapelle.
Quelle absurdité de mettre un tel bâtiment sur un rocher perdu au milieu de nulle part pour faire je ne sais quelle salamanèque. Très bien. Donc du coup on pourrait être sur cette île en fait.
Voilà, ça pourrait être la chapelle.
T'es presque sûr en fait que vous êtes sur cette île là parce que tu sais que dans le coin il n'y a pas d'autres phares.
Bah oui,
c'est logique.
Donc là s'il y a un phare, ouais, à moins d'avoir vraiment navigué loin.
Ouais.
Mais oui, pour l'instant, si on ne trouve rien.
Monsieur Harrington, c'est ça?
Oui, perdu.
Tu parcours un petit peu les différents journaux, les différents manuels techniques. Tu regardes un petit peu plus précisément. Tu sais que le liquide en fait, qui sert à faire tourner la coupole, c'est du mercure. Chose qui était apparemment très pratique, puisque comme il y a peu de friction, ça permet en fait de bien tourner. Voilà.
Et au niveau des journaux, est-ce que c'est des journaux qui racontent des événements
C'est des journaux principalement anciens, tu parcours un petit peu les différentes choses. Beaucoup de nouvelles du coin, quelques petites annonces sur des ventes de biens, mais rien de très particulier. Une seule petite... un entrefilet en fait te parle principalement, c'est une histoire qui serait liée au phare. L'article qui te fait tilt un petit peu, c'est un article qui parle d'un événement qui s'est passé il y a de ça très longtemps au niveau de ce phare. Il y a une femme qui s'est suicidée du haut du phare. Et en fait, il y aurait eu un incident technique qui fait que le phare n'aurait pas fonctionné. Et suite à cet incident technique, son mari aurait disparu en mer. Et très superstitieuse, elle a décidé en fait de tenter de maudire le phare en se suicidant du haut du phare. Donc elle s'est glissée dans le bateau de ravitaillement pour pouvoir venir sur place.
D'accord.
T'as même le nom du bateau du mari, qui était le Brynkelpiet. Mais ça remonte à peut-être une 50-60 ans.
D'accord. Ok, bah je garde ça sous le coude. L'article, je le découpe.
Ouais. Je vous propose de laisser pour ce soir nos infortunés naufragés avec cette lecture un petit peu annonciatrice de mauvais présages. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que cette histoire vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Radio G 101.5 FM.